De nouveau, Acharemot et Kudoshim, donc la paracha elle commence en disant que, en donnant une indication sur le moment où les choses se passent. Un instant. Tu as ouvert? Après mort de deux fils d'Aaron, de Korvatam, l'Ifne Hashem, Vayamutu. Donc après la mort des fils d'Aaron, de deux des quatre fils d'Aaron, lorsqu'ils se sont approchés devant Hashem, Vayamutu, qu'ils en sont morts. Une fois qu'on a dit Acharei Mot Shnei Aaron, on sait bien qu'ils sont morts. Pourquoi le pasouk nous répète que ils se sont approchés de trop près, probablement, Korvatam Lifnei Hashem, c'est-à-dire ils se sont approchés d'une manière qui n'était pas permise d'Hashem. Donc c'est le rappel ici de leur démarche, en fait. Vayomer Hashem El Moshe. Alors, c'est intéressant parce que le premier verset commence Vaydaber Hashem El Moshe, Acharei Mot Shnei Bnei Aaron, mais on ne nous dit pas ce qu'il a dit. Il lui a parlé. Or, non seulement il lui parle, mais vous remarquez que c'est écrit Vaydaber. Il lui parle. Donc, a priori, Vaydaber, c'est il lui parle d'une certaine manière un peu durement. Mais immédiatement, le passouk d'après dit Vayomer Hashem El Moshe. Et maintenant, il lui parle doucement. C'est une amira. Et il lui dit Daber El Aaron Achicha. Là, il lui dit quelque chose. Donc, le premier verset dans lequel il ne lui a rien dit du tout. Alors, Rashi ramène, c'est un commentaire sur cette situation. Il demande, Ma Talmud Lomar, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous dit le premier verset? Il y a une autre version où c'est marqué, Enano Yodim, Mane Marlo, Bedibur Rishon. Ça veut dire explicitement, nous ne savons pas du tout ce qu'Hachem lui a dit dans cette première parole. Aya Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria, Moshe, il donnait un machal. Le machal du cholé, Shenichnas etzlo rofe, le médecin entre chez lui et il lui dit, Al tochal tzonen v'al tishkav be tachav, c'est-à-dire, ne mange pas froid, ne t'expose pas, etc. Ba acher ve amar lo, Al tochal tzonen ve'al tishkav b'tachav. Shelo tamut k'derer shemet ploni. Alors, zeh zirzo yoter min harishon. Alors, le deuxième qui lui a dit, ne le fais pas parce que sinon tu risques de mourir comme le X là en est mort. Donc le deuxième, il a plus fortement incité le malade à respecter la consigne. Ça, c'était le machal de Rabbi Elazar ben Azaria. Alors maintenant, appliqué à notre situation, le kach ne'emar acharei mot shnei bnei Aaron, vayomer Hashem el Moshe, daber el Aaron, achicha ve'al yavo. Shelo yamut k'der shem etu banav. C'est-à-dire que le premier verset, il vient dire tout de suite que c'est pas simplement, si on n'avait pas le premier verset, Alors Hachem dit à Aaron, ne viens pas à tout moment dans le Kodesh HaKodashim, tu n'as le droit d'y venir que de certaines manières. Mais le premier verset, il vient nous dire que, mettre en garde et parler du fait que ce serait s'approcher de trop, comme se sont approchés de trop Nadav et Avihu et qu'ils en sont morts. C'est juste que dans l'exemple de Rabbi Elazar ben Azaria, la première parole est une parole légère et la deuxième, c'est le marteau. Alors que ici, la première chose qui est dite, c'est attention, tu vas mourir. Enfin, eux, ils sont morts. Maintenant, tire-en les conclusions. Donc, on pourrait dire ici que le fait que l'ordre soit inversé, c'est pour que c'est au malade de faire le travail. Je te donne une information, et maintenant tu mets ça en mémoire, et maintenant quand tu entends parler de quelque chose, tu utilises ta mémoire et tu l'appliques. Tandis que si on parle en deuxième position, alors c'est tout est donné par le médecin extérieur. Il n'y a pas de travail intérieur de la personne. Dans le premier cas, tel que c'est décrit chez nous, il faut un travail d'Aaron. Alors, Aaron, on lui met en mémoire la mort de ses fils parce qu'ils se sont approchés de trop. Et maintenant qu'il a ça en mémoire, maintenant il lui dit, Hachem lui dit à Moshe, de dire à Aaron, de Aliavo, parle-lui à Aaron. Vous voyez, il y a tout un jeu sur Vayomer Vaidaber. Le deuxième verset, c'est Vayomer Hachem El Moshe. Donc Hachem parle doucement à Moshe. Mais il lui dit, parle à Aaron, mais parle-lui durement, ça veut dire, tu lui donnes une halakha. Donc, tu lis pas ça de façon très douce. Ve al yavo, c'est-à-dire parle-lui et qu'il ne vienne pas. En fait, le vav ici, on comprend pas très bien ce qu'il fait. Tu vois? Pourquoi et qu'il ne vienne pas? Normalement, la phrase c'est d'abord el aron achicha, deux points, ouvrez les guillemets éventuellement, al yavo becholet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve aliavo. Le ve, qu'est-ce qu'il fait là, ce ve? Qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'est-ce qu'il. Non, c'est pas très clair. C'est très clair pour moi. Donc, ce deuxième verset dit que Aaron, ton frère, il ne peut pas venir à tout moment. El HaKodesh, mi Beit la Parochet, al pnei HaKaporet, il ne peut pas venir à tout moment au-delà du Kodesh, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, mi Beit la Parochet, de l'autre côté du rideau, le rideau qui sépare le Kodesh du Kodesh HaKodashim, el pnei HaKaporet, à ce moment-là, s'il passe de l'autre côté, il est devant le caporet, il est devant le couvercle du Aaron avec les Krouvim. Asher ala Edut, Asher ala Aaron, ce couvercle qui est sur l'arche. Veloyamut. Et pourquoi est-ce que s'il le faisait, il mourrait? Quel est le problème ici? Le problème c'est qui be'anan erae ala caporet. Parce que je me donne à voir, dit Hachem, au-dessus du caporet, dans une espèce de nuage. Donc, Hachem veut dire, il y a là la présence d'Hachem, et donc Aaron ne peut pas venir à tout moment. Mais, bezot yavo Aaron, et voilà comment il peut venir, il viendra avec ceci, zot. Et la Kodesh donc, Befar ben Bakar, venir avec un taureau, le khatat, qu'il amènera comme korban khatat, ve'ail le hola, et un bélier qu'il amènera en holocauste. Ktonet bad kodesh ilbash, il mettra cette chemise en lin kodesh, donc consacré. Umirnesevad, il mettra des pantalons aussi en lin. Yu al besaro, ils seront sur sa chair. Ici, on apprend que les vêtements doivent être sur al besaro, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas mettre un damar, même quand il fait froid, ils ne peuvent pas mettre un damar sous leurs vêtements. D'accord? Les vêtements doivent être à même la peau. Alors, auparavant, ils vont devoir se purifier. Et après, après s'être purifié, il mettra ses vêtements qui sont cités là. Et quand il viendra, il amènera Me'et Adat Bnei Israël. Il amènera un corban sibour, un corban au nom de la collectivité d'Israël. Il prendra deux Seiré Izim, deux boucs, comme Khatat, qui ont un statut de Khatat, Ve'ailechad Leola, et un bélier comme Holocauste. Ve'ikriv Aaron et par Khatat, Asher Lo, Aaron va approcher, donc il va sacrifier le taureau de Khatat qui lui a été prescrit, donc qu'il a, Ve'chiper Ba'ado Ba'ad Beto. Et ainsi, il aura Kapara pour lui et pour sa maison, sa famille. Il prendra les deux boucs, et ces deux boucs, il va les mettre devant Hachem, à la porte du Oel Moed, et il va tirer au sort entre ces deux boucs. Goral Echad, on va tirer une carte, quoi, enfin, un signe, qui sera pour désigner celui des deux boucs qui sera l'Hachem. Et Goral Echad, l'Azazel. Et un deuxième qui sera pour Azazel. Écrive Aaron est un saïr asher ala alav agoral l'Hachem. Aaron va approcher le bouc qui est destiné à être approché comme korban pour Hachem. Va saou khatat et il le traitera comme un khatat, c'est-à-dire un khatat, on a prescrit où est-ce qu'on doit faire la shrita, qu'est-ce qu'on fait avec le sang, etc. Va saïr asher ala alav agoral l'Azazel, mais le bouc qui lui est désigné pour Azazel, Yomad Chai, il va rester vivant devant Hachem, le chaper à lave pour qu'on l'utilise pour obtenir Kapara, pour laver les fautes, le chaler chotol à Azazel, on va l'envoyer à Azazel, à Midbara, dans le désert. Vikriv Aaron et Parahatat, Asher lo vechiper bado bad beto, donc il va approcher, comme on avait dit, et il va faire ce qu'on lui a prescrit. Bon, je ne vais pas décrire la totalité de la voda. Vous avez reconnu, bien que ce n'est pas marqué du tout, qu'il s'agit de la voda de Yom Kippour. Il n'y a pas un mot de Yom Kippour dans cette affaire. Il parle de Kapara, mais il n'est pas marqué Yom Kippour. Dans le Maître Yaakov de Rav Yaakov Kamenetsky, il ramène, il dit Shamati Omrim Beshem Agra. J'ai entendu dire au nom du Gaon de Vilna. En fait, C'est écrit dans le Chochmat Adam. À la fin de son livre, il ramène. Et puis c'est aussi écrit dans un sefer qui s'appelle Divrei Eliyahu. Il est souvent édité en même temps que le Kol Eliyahu dans les œuvres du Gaon de Vilna. Alors qu'est-ce qu'il a entendu? Un chidouche. Sheimaya Aaron makriv al sidro shel Yom HaKippourim. Que si Aaron pratiquait les choses telles qu'elles ont été décrites ici, on va appeler ça rapidement le seder de Yom Kippour, l'ordre des choses à Yom Kippour. Si Aaron faisait ça un autre jour que Yom Kippour, n'importe quand dans l'année, Ayamutar lo li kanes kol yemot hashana. Il pourrait entrer dans le Kodesh HaKodashim n'importe quel jour de l'année, Nifnai velifnim, entrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est juste les Kohanim HaGdolim, les Kohanim HaGdolim, qui vont venir après Aaron. Aaron est Kohen Gadol, après lui, il y aura, puis c'est Lazare, il en a d'autres, oui, évidemment. Les autres Kohanim, eux, ça sera toujours interdit pour eux d'entrer, sauf le jour de Kippour. Voilà. Mais le Gaon, il dit que Aaron, il a une chose spéciale, enfin un statut spécial. Lui, il aurait pu entrer n'importe quand, pourvu que il vienne avec les korbanot qui sont prescrits pour pouvoir y entrer. Alors, lui, il dit, Efchar she'otzi ze'e me'ad amrinan begitin. Peut-être que le Gaon a tiré cet enseignement qu'il donne ici d'une Gemara dans Gittin qui dit que il y a eu huit parshiot, huit paragraphes, si vous voulez, Nemru beyom sheukam Mishkan. Le jour où on a inauguré le Mishkan, on a dit huit paragraphes ou huit morceaux de Torah. Et la Gemara dans Gittin, elle les énumère. Et dans la liste, il y a Parshat Acharemot, qu'on a lu aussi la Parasha de Acharemot. Et Rashi, là-bas, il était obligé d'expliquer les choses. Et il dit, Afalpi shei shel Yom HaKippourim, bo beyom ne'emra. Le problème, c'est ce texte-là de Haremot. Il concerne Yom Kippour. Donc pourquoi est-ce qu'il est écrit ici? Pourquoi est-ce qu'il a été dit au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, du Mishkan, pardon? Donc on pourrait penser que puisque on a dit même en dehors de Kippour, on a enseigné cette paracha de Acharemot, c'est de là que le Gaon aurait éventuellement pris la source, trouvé la source de ce qu'il a dit. Mais en vérité, d'après les paroles du Gaon lui-même, il est clair que Behemet et la kol pam shirotse Aaron likanes le sham tsarich la sot ke seder she mekhuyav la sot biyom kippour. D'après le Gaon, il n'y a aucun problème au fait que cet enseignement il ait été donné le jour de l'inauguration, puisqu'on vient dire pour Aaron une procédure pour que quand il veut, il peut entrer dans le Kodesh HaKodashim sous la seule condition qu'il amène, ce qu'on a dit, le taureau et le bélier, etc. Donc ça, c'est un chidouche qui circule au nom du Gaon de Vilna, dont on ne sait pas toujours exactement, le Gaon ne dit pas d'où il l'a pris. Alors, c'est possible qu'effectivement, ce que dit Rabbi Yaakov Kaminski soit en soi la source, mais C'est plus vraisemblable que simplement le gars, il a lu les choses telles qu'elles sont marquées. C'est pas marqué, c'est marqué nulle part ici que c'est pour Yom Kippour. Mais ça veut aussi dire que si Aaron entre dans le Kodesh HaKodashim, n'importe quel jour de l'année, bien on fait la procédure de Yom Kippour, c'est-à-dire il entre pour obtenir une kapara pour lui, pour sa famille, pour les Kohanim et pour tout le monde, exactement comme c'est le cas de Kippour. Comme si, de ce point de vue-là, le problème de la kapara n'était pas, à l'époque de Aaron, c'était pas un problème qui se posait seulement le jour de Kippour. Au temps d'Aaron, on pouvait obtenir la kapara à n'importe quel moment. C'est juste qu'après, ce n'est plus le cas. Après, on a d'autres sources qui disent que cette paracha, elle s'applique seulement à Yom Kippour. Alors, on va, comme vous connaissez un peu, c'est les Corbanotes, donc on va sauter un peu et on va aller au chapitre 18, au verset 5, le chapitre 18. En fait, ce chapitre 18, là, il parle, il met en garde les Bnei Israël et il dit que Moshe doit leur dire aux Bnei Israël, voilà, Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, et attention, Kemaaseh Eretz Mitzrayim, vous ne ferez ni ce que vous avez vu faire en Égypte, ni ce que vous allez voir faire dans le pays de Canaan où je vous amène. C'est-à-dire, l'otasu, pas, ou bechukotehem, l'otelechu. Et vous ne pratiquerez pas les pratiques spécifiques des idolâtres, que ce soit ceux d'Égypte ou ceux de Canaan. C'est-à-dire, il y a une mise en garde. Vous avez été et vous allez être confrontés à des milieux installés, des gens qui ont, vous arrivez dans des endroits, vous avez été, vous avez arrivé dans un endroit où les gens ont des traditions, ils ont une culture, etc. Je vous interdis de faire comme eux. Par contre, vous appliquerez mes lois, et mishpatai ta'asu, chukotai tishmeru lalechet bahem, et vous garderez mes décrets pour les suivre, en fait. Encore une fois, répétition, ani Hashem Elokechem. Et enfin, ce verset 5, ushmartem et chukotai. Encore répétition, vous garderez mes décrets et mes lois. Asher yaaseh otam ha'adam, parce que c'est des décrets, des lois qui, quand ils sont faits par les hommes, sont pratiqués par les hommes, et c'est pour ça qu'ils sont donnés, ils vous sont donnés ici. Ve'chai bahem ani Hashem. Ça veut dire ici, l'homme accomplira donc ses lois et ses décrets, et par eux, chai bahem, Grâce à l'application de ces lois et décrets, l'homme vivra. Je suis Hachem. Alors, on avait déjà vu quelquefois que quand Hachem dit dans le texte Je suis Hachem ou Je suis Hachem votre Dieu, ça veut dire on peut me faire confiance. N'est-ce pas? Parce qu'Hachem promet ici que de suivre ses décrets, ses lois, ça entraîne la vie. Ça. Alors, le Rav Volbé là-dessus, il disait, la Torah, quand elle parle de la vie ici, l'homme vivra avec grâce à ça, la Torah ne parle pas de la vie physique, en fait. Elle parle d'une vie spirituelle. C'est-à-dire que de pratiquer les lois et les décrets, ça permet de vivre à un niveau spirituel plus élevé. La Gemara, elle rapporte la situation suivante. Elle rapporte la situation où un homme a tué quelqu'un d'autre accidentellement. Et alors vous savez ce qui se passe à ce moment-là, si quelqu'un tue Beshogeg, c'est-à-dire accidentellement, alors il doit s'enfuir, il doit aller et il doit rester dans ce qu'on appelle une ville-refuge. Bon, ça passera pas en tribunal, mais il va devoir vivre dans une ville-refuge. Le pasouk dit, il va courir vers l'une de ces villes-refuges et il vivra. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit, puisque c'est marqué qu'il doit vivre, alors ça veut dire qu'on s'adresse ici au Batedinim, aux responsables, et on leur dit, vous devez créer pour cet homme qui s'enfuit dans une ville-refuge, vous devez créer une situation grâce à laquelle il va pouvoir vivre. Alors, on en déduit, si par exemple un élève a tué par inadvertance et il est obligé d'aller dans une ville-refuge, alors son rave doit aussi aller dans la ville-refuge. Parce qu'évidemment, on parle d'une qualité de vie, une qualité spirituelle de vie. Et le Rambam, qui le dit dans les Halakhot, le dit explicitement. Il dit, quand il parle de cette halakha, il dit, lorsqu'un élève est exilé dans une ville-refuge, on envoie son maître également en exil, parce que la Torah dit qu'il doit pouvoir vivre. Donc tu dois faire pour cet exilé quelque chose qui lui permet vraiment de vivre. Et pour quelqu'un qui, dit Rambam, qui recherche la sagesse, un élève, sans Torah, ça s'appelle pas vivre, il est mort. Ce serait une mort. Mort spirituelle. Alors, on va donc exiler quasiment toute la yeshiva. Donc, ce qu'on apprend ici de ce Rambam et de la Gemara, donc, c'est qu'il est très possible que quelqu'un apprenne beaucoup de Torah, c'est-à-dire qu'il ait de grandes connaissances dans la Torah, mais en fait, il ne vit pas avec et par la Torah. Il a des connaissances. Si on veut que la Torah, comme ici, devienne une partie de la vie, il faut impérativement, comme on le ferait par exemple pour la vie physique, de vérifier que cette vie physique, elle n'a pas d'interruption. Bon, il va pas arrêter de vivre pendant 5 minutes, puis on recommencera un peu plus tard. Donc là aussi, il faut que la Torah soit quelque chose de continu. Il faut qu'il n'y ait pas d'interruption dans son étude. Dans Kriyat Shema, on dit Vedibarta Bam. Alors, tu en parleras, tu parleras de Torah dans toutes circonstances, que tu sois à la maison, lorsque tu voyages, lorsque tu te couches, lorsque tu te lèves. Mais comment est-ce qu'on peut être sans arrêt en train d'étudier? C'est seulement si la personne, elle s'occupe de Torah, même quand elle n'est pas devant, elle, assise à sa table devant un livre de Torah. Il faut que le penser à la Torah, de penser à la Torah, c'est devenu sa vie. Il pense en permanence à la Torah. C'est le but ultime, en fait. Concrètement, c'est presque impossible, par exemple, quand je discute avec quelqu'un, de continuer à penser à délivrer Torah. Mon esprit, il est dans la conversation que j'ai avec la personne qui est en face de moi. En fait, on pourrait dire que quand je suis au volant de ma voiture, je ne peux pas me mettre complètement dans la Torah parce que ça va complètement me mettre ma vie en danger. Je ne vais pas regarder ce qui se passe dans la route, sur la route. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de moments dans la vie où on peut penser à la Torah. Donc, au lieu de laisser l'esprit vagabonder, il faut utiliser ces moments-là de sorte à produire de la Torah, c'est-à-dire à réviser quelque chose ou à essayer de savoir comment résoudre un problème, ou bien de faire du chesed, par exemple. Faire du chesed, c'est-à-dire penser à faire du chesed, c'est vivre selon la Torah. On peut aussi penser à Yom Tov qui va venir ou penser quelle est la signification des jours de la Sfirat HaOmer. Donc la Torah ne doit pas être réduite, si on veut, à quelque chose dont on ne s'occupe qu'au moment où on est assis à sa table devant un texte de Torah. C'est ça qu'on appelle vivre selon la Torah. Alors là, tout de suite après ces injonctions-là, ne pratiquez pas les lois, les choses que font les goyim que vous avez vu faire en Égypte, que vous allez voir faire en Canaan. Immédiatement, le paragraphe qui vient, c'est les interdits de d'arayot, c'est-à-dire interdits d'inceste ou inceste au sens large. Et d'ailleurs, c'est intéressant que ce soit justement cette paracha qu'on lit à Mincha de Yom Kippour. Yom Kippour, à Mincha, on ne lit pas un texte qui parle de Yom Kippour. On lit des interdits des harayot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que... Ça fait partie de mes décrets et de mes lois. Alors, ces lois, en fait, ce sont des lois qui jouent un rôle très important dans ce qu'on appelle la Kedusha du clan d'Israël, la sainteté du clan d'Israël. En fait, dans Parashat Kedoshim, qui est la deuxième parasha que on va lire ce Shabbat, au chapitre Kaf, chapitre 20, verset 23, celles qui ont un texte pour y aller, chapitre 20, verset 23. Le pasouk dit, Velo telchu bechukot agoy, asher ani meshaleach mipnechem, c'est-à-dire, vous n'irez pas, enfin, vous ne suivrez pas les coutumes du peuple que je chasse de devant vous, parce que et kol elle est assou. Ils ont fait toutes ces choses qui sont mentionnées pour la deuxième fois dans Parshat Kedoshim, les problèmes de Arayot de nouveau. Eux, ils faisaient toutes ces choses-là que je vous ai interdit de faire. Donc, ne suivez pas leur loi. Vrekatzbam. Et j'ai été dégoûté par eux. Et la raison pour laquelle je les chasse devant vous, c'est pour cela. Donc, vous ne faites pas ces choses qui ont entraîné que j'ai chassé pour vous ces gens qui se trouvaient là. Alors, de nouveau, le maître Yaakov dit, dans le Rambam, c'est écrit, quand il ramène ce verset-là, de Lo telchu bechukot, il écrit, Lo telchu bechukot Asher ani meshaleach mipnechem, et il dit, En emet, chez Sofa Mikraze, il est vrai que la fin du verset que nous venons de lire, qui dit, Et kol ele, toutes ces choses-là que je t'ai interdites, il les pratiquait, ces peuples, Vaekatsbam, et j'ai été dégoûté par eux. Et je vous ai dit à vous, Atem tirshu et admatam, vous allez hériter de leur terre, c'est-à-dire le territoire des Bnei Israël. Les Bnei Israël le reçoivent parce que parce que les autres, on les a chassés. Je les ai chassés. Alors, le Rambam, il a écrit tout ça au pluriel. Alors que chez nous, c'est marqué Lo telchu bechukot agoy, asher ani meshaleach mipnechem. D'accord? Ce que je chasse, c'est le goy. Et le Rambam dit Chukot goyim, les goyim que j'ai chassés. Et Onkelès, quand il a traduit, lui aussi, il a traduit au pluriel. Il a aussi dit les Nimusim Ammaya, c'est-à-dire les Nimusim, donc les choukot, de coutume des peuples, et pas Mashma Lashon Rabim. C'est un peu compliqué. Pourquoi le Rambam cite un verset et il ne le cite pas comme il est écrit? Alors il dit, on peut, mais ce serait difficile de dire que puisque le goy qui est là-bas et c'est ce peuple, c'est ce goy-là, c'est un ramassis de, un rassemblement de beaucoup de gens, alors on doit leur parler au pluriel. C'est un peu compliqué de dire ça. Et dit, j'ai vu, continue, j'ai vu dans Torah de Kohanim, Torah de Kohanim, c'est donc le commentaire halachique de Sefer Vayikra, il y a une dracha, Lo telchu bechokot hagoy, et là-bas, la dracha, elle est, Elo, qui c'est le goy en question? Elo ha-mitzrim, asher ani meshaleach mipnechem, Elo ha-kohani, c'est-à-dire, les lois du goy, c'est les lois des Égyptiens. Que je chasse devant vous, c'est les lois des Cananéens. Parce que les Égyptiens n'ont pas été chassés pour que nous prenions leur place. Ça s'applique seulement aux Cananéens. Donc on voit, c'est que Fianire aya caché laem amai patar belachon yachid, siem belachon rabim. Donc il y avait une difficulté, comment est-ce que on commence à parler au singulier, puis ensuite on passe au pluriel. C'est pour ça qu'ils ont, les Tanaïm ont décidé, Sheyesh kan shnei amin. Donc ici on parle de deux peuples différents. Et comme l'a dit Unkeles, Aval be'emet le fi apshat bedivrei haTorah de Kohanim nireli. Mishum de Parashat Acharei, dans Acharemot, là où on en était, le chapitre 18, hein. Yeshno Pasuk, Kazé, il y a un verset avant Azaroth, chez Manasham, chez Mazaroth, à Onshim, chez Rachav, Parashat Kedoshim. Le fait qu'il y ait deux fois la paracha des Arayot, une fois donc dans Achremot, une fois dans Kedoshim, c'est les interdits, ils sont énoncés dans Achremot, et les sanctions sont énoncées dans Kedoshim. C'est pour ça que c'est répété. On a besoin de psukim pour dire un interdit, on a besoin d'un autre pasuk pour dire quelle est la sanction. Et là-bas, le Tarot Kohanim, il écrit, là-bas, c'est ce qui est écrit dans le passouk qu'on vient de lire. Que Maaseh Eretz Mitzrayim ou là-bas, c'est tout est au pluriel, mais on marque bien qu'il y a deux peuples différents. C'est pour ça que là-bas, il fallait les expliciter tous les deux. Donc finalement, on est obligé de d'essayer de comprendre quand même quelle était la démarche du Rambam et la démarche de Onkelès, en fait. Et j'ai vu dans un, il dit, Imlo shenomar, shetaout sofer yeshkan, sauf à dire qu'il y a une erreur de copiste. J'ai vu dans un chumash, avec un chumash qui est annoté avec des versions un peu qu'on trouve avec versions qui sont présentées comme étant des versions qu'on trouve dans des éditions antérieures quoi. Chez qu'il amène Nusra chez Katouf Sham Agoyim au nom de il ramène que la version Goyim au lieu de Goy. Donc le pluriel, ça se trouve dans un manuscrit des Karaïtes. Les Karaïtes, ceux qui étudient la Torah, mais qui ne reconnaissaient pas la Torah orale, eux, ils avaient dans leur manuscrit la version plurielle. Et on trouve aussi ça dans certaines traductions. Alors peut-être, c'est que c'était comme c'était écrit dans le Rambam, et que les Karaïtes, ils ont pris pas mal de choses dans le Rambam. J'ai aussi vu dans un Midrash, dit-il, sur Michelet, sur le passouk qui dit Al telech bederech itam, c'est-à-dire dans Michelet, Shlomo HaMelech, il dit ne va pas sur le même sur ton chemin avec eux, ne les suis pas. Elle est umot haolam, dit le Midrash, sheneemar lo telchu bechukot ha-goyim. Donc là-bas, c'est clairement marqué dans le Midrash sur Michelet, goyim, bechukot ha-goyim. Et en fait, on trouve que dans le livre du Rambam, plusieurs fois, il ramène ce verset, et dans la plupart des citations, il écrit Goïm. Par exemple, dans le Guide des Égarés, quand il cite ce verset, il dit Ve'amar velo telchu bechukot ha-goyim. Et plus bas aussi, on va voir toujours dans le Moreh Nevouchim, un peu plus loin, aval besof haperek, là-bas, il écrit lo telchu bechukot ha-goyim, etc. Et donc ça nécessite une explication, mais on n'en a pas vraiment. Dans le Sefer HaMitzvot, c'est-à-dire dans le livre où le Rambam énumère les mitzvot, il dit, Iziranu melechet bedarchea kofrim, veuomro italé lotel chou bechokotagoyim. Il dit qu'il y a une mitzvah, la mitzvah négative, d'accord, il dit ne faites pas, c'est la mitzvah 30 dans la recension du Rambam. Ça veut dire, Hachem nous a dit, n'allez pas sur les chemins, sur le même chemin que les kofrim, que les gens qui nient les valeurs de la Torah. Et il dit, c'est toujours comme ça, le Rambam, il donne la halakha, et puis il dit sur quel verset il s'appuie. Et donc il cite le verset, il le cite goyim, au pluriel. Mashma. De Kenaya Katouv Bisfarav. Ça veut dire que c'est clair, dans les livres du Rambam ou les Sifrei Torah qu'il y avait devant le Rambam, ça devait être marqué Goyim. Et dans une édition très importante de ce Sefer HaMitzvot, là-bas il ramène le texte et il dit Velo telchu bechokota goy. Mais comme dans les autres endroits, c'est marqué à Goyim, on voit que visiblement c'est l'auteur de ce commentaire sur le Sefer HaMitzvot, c'est ce Rav Heller qui a écrit ce commentaire, c'est lui qui a décidé, qui a corrigé. Il a écrit comme c'est dans notre Sefer Torah à nous et pas à Goyim. Donc, visiblement, la majorité des textes du Rambam, en tout cas, ils portent Goyim et pas Goy. C'est important parce que c'est un passouk et on peut pas déformer les psoukim, pas corriger. Pardon? On parle de Goy, ça veut dire le peuple, probablement. Et Goïm, c'est les gens. Les gens ou bien les peuples. Ou bien les peuples ou les gens. Ben, c'est important. Ça ne change pas grand-chose, pas obligatoirement quelque chose dans la signification, mais c'est très important que on a un Sefer Torah dont on pense qu'il est le même depuis assez longtemps. Et visiblement, le Rambam, il avait probablement une version différente dans son Sefer Torah, qui était aussi la version des Karaïtes, d'ailleurs, visiblement. Donc ça pose un problème, surtout que le Rambam, il n'était pas complètement cohérent. C'est pas dans toutes les citations du Rambam, c'est toujours marqué Goïm. Des fois, c'est marqué Goï. Mais bon, il semble que quand c'est marqué Goï, c'est plutôt les éditeurs ultérieurs qui ont corrigé et qui ont remis les choses telles qu'elles sont écrites chez nous dans notre Sefer Torah à nous. Moi, je voulais juste vous montrer que il y a des fois des problèmes qu'on ne sait pas résoudre. On ne sait pas résoudre. Et goyim au pluriel, ça peut vouloir dire ou bien les peuples, ou bien les, comme nous on dit les goyim, quand on dit les goyim, en général, on veut dire les hommes non juifs, et pas les peuples en tant que tels. Chez nous, c'est clairement en tant que peuple. C'est un peuple qui a des lois. C'est pas les lois de goy, le voisin goy. C'est pas, on parle vraiment des lois faites par des goyim. Quand on parle de cette histoire de ce qu'on appelle Rokotagoy ou Agoyim, ici, c'est quand les goyim font des choses qui ne sont pas rationnelles. C'est ça qu'on n'a pas le droit de suivre. Quand c'est rationnel, c'est pas parce qu'eux, ils le font qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais quand ils font des choses qui ne sont pas rationnelles, ça veut dire que leur source, c'est Avodah Zara. D'accord? Et c'est contre ça que la Torah nous met en garde. Ne suis pas ça parce que eux, ils faisaient toutes ces, ça les a entraînés à une conduite, etc. Parce que ça s'inscrit dans l'idolâtrie, en fait. Pardon? Oui, mais le problème, c'est il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas dites explicitement dans la Torah, mais qu'ils ont inventées. Je ne sais pas, par exemple, il y a dans les manières de table, il y a toutes sortes de lois. Bon. Il ne faut pas couper la salade, etc. Toutes ces histoires-là, ça n'a aucune rationalité. On peut dire que quand ils avaient effectivement des couteaux qui étaient en métal, qui allaient avec la sauce de la salade, ça allait s'oxyder, etc., ça va s'abîmer, alors il fallait pas couper pour pas. Mais aujourd'hui, continuer avec nos couteaux en inox, ça n'a aucun sens de ne pas couper la salade, si c'est ça la raison. Donc, si on continue de pratiquer ça, c'est complètement. C'est au nom de quoi? C'est quoi comme loi? C'est des lois. Bon, ça n'a pas de. Considérer que c'est une loi, bon, ça, c'est pas contraire à la Torah, mais c'est suivre une loi qui n'a pas de source. Et quand il n'y a pas de source, c'est pas rationnel, si on veut, alors on ne fait pas. Pardon? Oui, c'est ça. Oui. Il y a toutes sortes de choses qui, même si elles ne sont pas interdites explicitement dans la Torah, mais à partir du moment où ce sont des lois qui sont. Non, ça apparaît n'importe quoi, comme étant n'importe quoi. Mais, ou en tout cas, même si à un moment donné, il y avait une raison, et mais pourquoi on continue puisque la raison n'existe pas, c'est pas de la Torah, où la Torah, elle dit, voilà, tu fais comme ça, et même si les circonstances ont l'air d'avoir changé, etc., on va pas obligatoirement changer, ça c'est la Torah. Mais si pour autre chose, on n'a pas le droit de suivre quelque chose d'arbitraire qui nous correspond en rien.
Est contournable. Et on ne peut pas, ça ne va pas changer avec le temps. Eux, leur source est tout même, donc ça va changer.
Ben c'est juste. Oui, parce qu'on avait. Ça, c'est les Chachamim qui ont jugé que À partir du moment où les goyim, ils ont fait certaines choses, il y a une chose qui a changé dans la Torah, c'est toujours le problème des stèles. D'accord? Que dans le Sefer Bereshit, Yaakov Avinu ou d'autres, ils dressent des pierres comme ça. Et c'est marqué que dans le Sefer Dvarim, c'est considéré comme une abomination. Alors on dit pourquoi ça a changé? Parce que les goyim se sont mis à faire la même chose. On a donc la Torah, elle dit ça, je veux plus que vous fassiez ça parce qu'eux le font. Alors est-ce que c'est systématiquement dès le moment où eux font quelque chose, il faut plus le faire? Je sais pas. Par exemple, certains disent qu'il faut pas. Il y a le minhag à Shavuot de mettre des fleurs ou des plantes, etc. Dans la synagogue, certains disent que à partir du moment où eux, ils ont fait une fête des rameaux, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, où ils mettent effectivement de la verdure ou je ne sais pas quoi, des rameaux, je sais quoi, certains disent qu'il ne faut pas mettre en tout cas des rameaux peut-être, il faut, on peut mettre des fleurs et pas des plantes, ou pour pas avoir de, pour pas qu'il y ait une ambiguïté. À partir du moment où eux l'ont fait, on ne le fait plus. Ouais, non, ça fait rien, c'est comme ça. Ouais. Non, ça, parce que on veut pas, on veut marquer la différence. On marque la différence. C'est comme ça. Ça, c'est, si vous voulez, il y a des lois qui sont logiques, qui se défendent, qui ont une certaine rationalité. Ça, il y a pas de mal à les suivre. Oui, non, mais effectivement, c'est devenu une idéologie. Alors, le côté idéologique, c'est pas bien. Mais qu'il y ait dans certaines, qu'il y ait des comportements, etc., respectueux de la nature, etc., pourquoi pas? Si c'est pas en tant qu'adoration de la nature, mais c'est un respect de la nature. Quand il nous a mis un monde, c'est pas évident de marcher sur l'herbe, quoi, quelque part. Alors que vous pouvez marcher sur un chemin, est-ce qu'on a le droit de marcher sur l'herbe? En Eretz Israël en particulier. Oui, mais ça vous sera difficile de ne pas en tenir compte. D'accord. Bon, mais je pense que ces gens qui font ça, ils sont quand même obligés de faire un renseignement, de dire des choses pour justifier ce qu'ils font. Et donc, c'est pas obligatoirement notre rationalité. OK, on peut ne pas être d'accord, ça n'a pas d'importance. Mais quand ce qu'ils disent, c'est pas au nom d'une idéologie, c'est au nom d'un raisonnement dont on peut penser qu'il est faux, mais OK, ça, les erreurs, c'est humain. Pardon? Oui, ben, c'est possible que nous, on a des choses qui peuvent paraître. C'est sûr qu'il y a des questions sur lesquelles on peut interroger, la Gemara, elle rapporte que les goyim ou les tzahara, ils posent des questions sur Parah Adouma. Qu'est-ce que c'est que ces procédures de Parah Adouma, c'est. Je ne comprends rien du tout, quoi. Je comprends ce qui se passe. OK. Bon. Alors, nous, notre émouna, c'est que c'est bon pour nous, c'est bon pour le monde, etc. Il y a des choses qu'on peut expliquer, des choses que ou qui s'explique d'une certaine manière. Et bon, ça, il y a une vision du monde selon la Torah qui n'est pas obligatoirement la vision du monde extérieur. Mais aujourd'hui, si vous voulez, des visions du monde qui changent même de façon scientifique, si vous voulez, ça existe aujourd'hui. Ça, c'est de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus facile parce que il y a des théories qui expliquent le monde de cette manière-là, d'autres de cette façon. Il y a le Big Bang, etc. Mais il y a d'autres, des physiciens aussi importants qui disent que c'est faux, que c'est pas la bonne théorie. C'est jamais que des théories. Elles sont présentées comme des théories. Et pas, c'est pas des choses, il y a des choses, le prix Nobel français, là, il a montré quelque chose qu'on comprend absolument pas. On sait le calculer, mais on ne comprend pas. Donc, il y a des choses comme ça. Dans la parasha de Kedoshim, on peut regarder un passouk qui est bien connu, au chapitre 19, au verset 3. Pasuk dit Ish imo ve'aviv tira'u ve'tshabtotai tishmeru ani Hashem Elokechem. Ish, un homme, sa mère et son père les craindra, et mes Shabbatot, respectez-les, ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu. On a déjà dit, Rashi dit sur Ish Imo ve'aviv, c'est-à-dire, c'est quoi comme formulation? Ish imo ve'aviv, c'est drôle comme formulation. Dans la Aseret HaDibrot, quand on parle de Kibbud Av V'Em, on a une formulation normale, standard. Mais ici, Ish imo ve'aviv, Rashi dit, Kol echad mikem tira'u aviv ve'imo. Déjà, Rachid, là, ici, il a inversé l'ordre. D'accord? C'est écrit dans la Torah, imo ve'aviv. Zehu pshuto. Donc, ça veut dire, Rachid a compris que le pshat voulait dire, quand on a dit ish, ça veut dire chacun d'entre vous. Toute personne, tout homme, toute femme, peut-être tout homme, parce que Ish, normalement, c'est pas une femme. C'était assez étrange, parce que si tu dis Ish, alors quoi? Les femmes, elles n'ont pas cette obligation de craindre leur père et leur mère, leur mère et leur père. Donc Ish. Oui. Ou Midrasho, Eli Ela Ish. Isha Midain. Donc, dans le Midrash, la Drasha, elle est. C'est-à-dire, la drachelle elle commence parce que, pourquoi Ish? La question que je viens de poser. Pourquoi Ish? Et quoi, Isha, non? Alors, d'où est-ce qu'on sait qu'une Isha, elle a aussi ces lois-là? Que chez Omer, Tira'u, vous craindrez, Arekanshnaim. Raoult, ça veut dire vous craindrez. Il y en a deux qui craignent. Imken la main des mariches. Mais puisque c'est vrai pour une femme comme pour un homme, pourquoi tu écris un mot ish qu'ensuite il faut corriger en regardant la forme verbale? Chez Aish, si pek biyado la sot, aval isha rushut acherim aleha. Alors la réponse c'est. Si tu dis que la femme est obligée, alors elle aura un problème parce que la femme, si elle est mariée, elle a normalement, elle ne peut pas faire des choses contraires à ce que son mari lui dit de faire. Donc, si le mari lui dit, je t'interdis de donner du poids et de manifester la ira par rapport à tes parents, Alors elle va être coincée, elle ne pourra pas le faire. Alors, la Torah, elle dit, OK, elle, on ne lui fera pas de problème. Si elle peut le faire, elle le fait. Si elle ne peut pas le faire, elle ne le fait pas. Imo ve'aviv tira'u. Là, quand même, Rashi dit, Kan igdim em la'av. Ici, on cite la mère d'abord, le père ensuite. Le fils, chez Galoui le fanav. Pourquoi? Parce que Hachem sait, chez Aben yare taviv yoter me'imo. Le père, le fils, il craint son père plus qu'il ne craint sa mère. Et dans le kavod, c'est le contraire. Igdim av le em. Pourquoi? Le fils, chez Galoui le fanav, parce que Hachem sait, chez Aben mechabed et imo yoter me'aviv. Parce qu'elle s'occupe de lui, elle, la mère. Elle. Et donc la Torah, elle vient dire ce qu'on ne fait pas naturellement. Et dans la suite, dans le même verset, on mentionne le Shabbat. Alors pourquoi on est sommaire? Pourquoi on a juxtaposé le Shabbat avec la mitzvah de Yirah par rapport aux parents? Pour dire que Afalpi chez Isartiha al Moré Av, bien que je t'ai mis en garde et que je t'ai obligé à craindre, hein, de conduire avec crainte devant ton père, malgré tout, Im yomar lecha chalel et haShabbat, al tishmalo. Si le père il te dit transgresse Shabbat, alors, ne l'écoute pas. C'est pas que tu n'auras pas un problème. Qu'est-ce que je dois écouter, la Torah ou mon père? Il n'y a aucun problème. Ton père, il est astreint comme toi aux mitzvot. Le chen béchar mitzvot. Et c'est vrai pour toutes les mitzvot. Pas seulement par rapport à Shabbat. Si le père, il te dit, je veux que tu mettes du chatnez. Tu n'as pas de problème. Est-ce qu'il faut que j'écoute mon père ou j'écoute la Torah? Il n'y a aucun problème. Ensuite, le verset continue et il dit, Ani Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem, Ata ve'avicha chayavim bichvodi. Toi et ton père, vous avez l'obligation de me donner à moi du kavod. Et de la ira aussi, il faut dire ici, le fichar, l'otishma, le vatel et dvarai. C'est pour ça que tu n'écouteras pas ton père quand il te demandera de contredire mes paroles. Eze, alors maintenant, c'est quoi la crainte de son père? Ezeu, moré, comment ça s'exprime, la ira de père? C'est lo yeshev bimkomo. Il s'assied pas à sa place. Loïdaber bimkomo, il ne parlera pas à sa place. Loïstoret dvarav, il ne contredira pas son père. Vezeu kavod, et c'est quoi le kavod dans Kibouda Le kavod, c'est maachil, mashke, malbish, manil, machnis umotsi. C'est-à-dire, il doit donner à manger, donner à boire, habiller, chausser, l'aider à aller et venir. Alors, par exemple, quand on dit que dans la dîne de Kavod, il y a le fait de nourrir ses parents, c'est aux frais des parents. Le nourrir, c'est leur donner à manger, mais pas à ses frais. On raconte qu'il y avait un grand Richard, mais aussi un grand radin, qui habitait à Cracovie et son père, il était à Varsovie. Et non, c'est le contraire. Il habitait à Varsovie, je crois, et le père était à Cracovie. Ça ne change pas grand-chose. Alors, le problème, c'est. Il est allé voir Ephraim Brisker, il m'a dit, dis-moi, La halakha est que le kibouda même, ça se fait aux frais du père. Donc c'est mon père qui doit payer le billet de train. Quand je vais prendre le train pour aller le voir, c'est mon père qui doit payer. Après, il m'a dit non, pas du tout, tu peux aller à pied. Ok, alors, cette mitzvah de kibouda va'em, par rapport aux mitzvot, nous disons dans, par exemple, on lit dans la Tfila, Kihem Chayenu. Dit des mitzvot, elles sont notre vie. C'est-à-dire, toutes ensemble, les mitzvot de la Torah, elles créent un corps spirituel, en quelque sorte. La Torah, elle ne fait pas de différence entre les différentes mitzvot. Elle ne hiérarchise pas non plus les mitzvot. Pourquoi? Parce que le manque d'une seule mitzvah, elle crée un déséquilibre dans la construction spirituelle de ce fameux corps. La Torah, elle contient des mitzvot entre Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lachavero, des mitzvot qui sont des obligations. Ces mitzvot-là, elles doivent être faites. Certaines doivent être faites avec le corps, d'autres doivent être faites dans le cœur. Il y a des mitzvot qui sont constantes, d'autres qui ont peuvent être faites à des moments bien précis. De faire toutes les mitzvot ensemble, ça donne une certaine perfection de ce monde. Et du coup, ça donne aussi un accès au monde à venir, comme on dit. Il y a des gens qui sont plus facilement qui s'exprime plus facilement. D'autres, donc naturellement, ils auraient, par exemple, ils font facilement les mitzvot du type chesed. Par exemple, se manifester de l'amitié pour le voisin, etc. Mais peut-être que quand tu auras des mitzvot entre l'homme et Hachem, ces gens-là, ils seront peut-être enfin, ils auraient plus de difficultés à les pratiquer. Je veux dire le contraire aussi, ceux qui font plus facilement les mitzvot verticales que les mitzvot horizontales, etc. Il y a des gens qui, par exemple, ne pourraient pas imaginer de salir leur bouche avec de la nourriture non cachère, mais ils n'ont aucune inhibition à la à souiller avec du lashon hara ou avec des mensonges. Dans la paracha donc de Kedoshim, ça vient nous enseigner que on ne doit pas, dans l'accomplissement des mitzvot, on ne doit pas suivre ces tendances naturelles. La Torah, elle dit, un homme doit craindre sa mère et son père. Et Rachid dit que pourquoi est-ce que la Torah l'a prescrit comme ça? Parce que ça va contre la tendance naturelle. Contraire pour le kavod. Donc on voit que la Torah, elle met l'accent sur la nécessité de faire les choses telles que qui sont difficiles, qui ne sont pas les choses qu'on pourrait le faire le plus facilement. Bon. Dans Kriyat Shema, on dit de telle sorte que tu te souviennes des mitzvot et que tu fasses toutes les mitzvot, toutes mes mitzvot. Et tu seras kadosh pour Hachem ton Dieu. C'est-à-dire, quand je fais toutes les mitzvot, alors, en quelque sorte, on se conduit de façon à posteriori justifier la sortie d'Égypte. Parce que c'était la sortie d'Égypte, c'était justement construire une relation particulière avec Hachem. On dit, je suis Hachem ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte pour être ton Dieu. C'est-à-dire pour que tu fasses les mitzvot. Donc on est sorti pour cela. Donc quand on fait l'ensemble des mitzvot, on justifie la sortie d'Égypte, d'une certaine manière. En fait, à la fin de la paracha, on termine dans le problème de Kashrout, et puis Yivdaltem ben habehema tehora latmea. Vous ferez la différence entre l'animal pur et l'animal impur. Alors, un animal vivant n'est jamais impur, n'est-ce pas? Le seul être vivant qui peut être impur, c'est l'homme. Ni le végétal, ni l'animal qui est vivant ne peut être impur. Donc, quand on parle d'animaux purs et impurs, on veut dire des animaux qui sont permis à la consommation et d'autres qui ne sont pas permis à la consommation. Rashi explique que dans ce verset, c'est faire la différence entre une béhémat tehora, une béhémat tméa, ça peut pas vouloir dire qu'il faut faire la différence entre une vache et un âne. Parce que la Torah, elle n'a pas besoin de me dire. Ils sont radicalement différents. Donc, on n'a pas besoin de me dire, fais la différence. Donc, le verset, il vient dire qu'il faut faire une différence entre des choses qui sont très proches l'une de l'autre, qui néanmoins sont les unes cachères et les autres pas cachères, pour nous. C'est-à-dire, est-ce qu'on a fait la shrita exactement comme il faut, ou est-ce qu'on n'a pas encore complètement, il y a deux simanim à couper, si on n'en a qu'un seul, couper qu'un seul, ou bien couper les deux. Dans un cas, c'est cachère, dans un cas, ça n'est pas cachère. C'est cette différence-là qui est très très fine qu'il faut savoir faire. La différence, c'est un cheveu, quoi. Dans le verset d'après, on voit très bien que il y a une autre différence à faire, qu'on peut expliquer un peu de la même manière. C'est marqué, et moi je vous ai séparé des autres nations. Cette séparation qui est mentionnée ici, Non, ça serait reçu aussi. Cette séparation qui est mentionnée ici entre Israël et les autres nations, elle ne peut pas être considérée simplement la différence entre les juifs et les non-juifs, parce que cette différence, elle est claire. Différence entre deux nations différentes, on n'a pas besoin d'Hachem pour savoir faire la différence. Donc ici, la séparation dont on parle, il faut l'entendre dans un domaine où on pourrait penser qu'il n'y a pratiquement pas de différence. Alors le Rav Volbe, il expliquait ça comme ça. Il disait, des fois, on lit un article écrit par un non-juif et on y prend beaucoup de plaisir. Et ça fait penser, ça fait réfléchir. Et on pourrait penser, tiens, c'est un peu comme une parole de Torah. Un jour, il racontait, un jour quelqu'un lui a dit qu'il avait des questions concernant sa émouna. Pourquoi? Parce que il était partie prenante dans un groupe de gens qui se sont donné pour tâche de récupérer les enfants qui avaient été pris dans les monastères, cachés dans les monastères, etc. Et ensuite, les monastères ne voulaient pas tellement les rendre, donc on a dû aller les chercher. Et donc, ça l'a amené en contact avec des prêtres. Et le prêtre avec lequel il est venu en contact, c'est quelqu'un qui parlait, qui analysait de façon très, très raffinée, en quelque sorte. Et donc, il est venu chez Rav Volbe, il lui a demandé, mais finalement, qu'est-ce que la Torah, elle a de plus que ce type-là qui a une énorme culture, qui parle très bien, etc. Alors, il dit, c'est justement dans cette situation-là que la Torah nous dit de faire la différence entre le juif et le non-juif. C'est-à-dire, on peut être impressionné par un grand poète, un artiste. Dans la Torah, c'est marqué Lo techanem. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de leur faire des cadeaux complètement gratuits ou on ne peut pas dire d'un homme ou d'une femme qui est visiblement idolâtre, on n'a pas le droit de dire que il ou elle est beau ou belle. C'est-à-dire que la différence, elle n'est pas seulement entre nous et comme on disait en son temps, le polonais ivre tous les week-ends. La différence, elle est entre nous et l'élite du goyim. On peut pas considérer comme négligeable Shakespeare. Bon, on peut pas. Il ne s'agit pas de mépriser Shakespeare. Mais il faut savoir que c'est un monde qui le sépare d'un juif. Il peut être très cultivé, quelqu'un peut être très cultivé, très raffiné, etc. La Torah, c'est autre chose, c'est beaucoup plus important que ça. Il y a une. Si vous voulez, une élévation spirituelle qui n'est même pas expérimentable par un non-juif. C'est-à-dire que quand on fait la bracha le matin, Shelo asani goy, nochri, ovet koravim, ce que vous voulez, il ne s'agit pas du tout de penser à un goy qui ne vaut rien du tout, mais Chez l'un, c'est un ego, et même le plus raffiné, le plus cultivé, etc. On sait très bien que on vit dans une société dont on absorbe énormément de choses. On conduit leurs voitures, les voitures, les mêmes voitures qu'eux. On utilise toute la périphérie et toutes sortes de choses, le luxe et d'autres choses. On parle leur langue. Et on ne fait pas attention. Dans le Hallel, il y a un passouk. On dit « Bet Yaakov me am loez ». C'est-à-dire, Bet Israël, il sortait à ce moment-là, les Bnei Israël, d'un pays qui parlait une langue étrangère, l'égyptien. Et la suite du verset, c'est Aïta Yehuda le Kotcho. Les Bnei Israël devenaient une nation kadosh, sainte. En quoi est-ce qu'ils devenaient? C'est qu'ils ne parlaient plus la même langue. Ils sortaient d'un pays qui était le pays le plus avancé, probablement, de l'époque. Ils sortaient de l'Allemagne. L'Allemagne d'avant-guerre, qui avait produit les grands philosophes, qui avait produit les scientifiques, les grands scientifiques, etc., dont certains étaient les juifs d'ailleurs. Mais c'était ça. La Kedusha d'Yehuda, c'est autre chose. Et donc, quand on va, la prochaine fois qu'on dit la bracha, Shelo Sani, vous dites Shelo Sani Goya. Je ne sais pas comment vous dites, donc Ria, Goya, je ne sais pas. Il faut penser aux non-juifs tout à fait remarquables qui ont habité notre monde au cours des années, au cours des différentes périodes. C'est des gens remarquables. Il n'y a aucune commune mesure avec ce que la Torah donne comme Kedusha. Ce que le mode de vie, selon la Torah, nous change. Donc, il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire l'importance de la différence, justement là où la différence, elle a l'air d'être extrêmement fine. Ça ne veut pas encore dire qu'un juif est obligatoirement, dans ce qu'il fait, il a toujours raison par rapport à un goy. Il n'a pas toujours raison. Ça dépend si le juif se conduit d'abord comme juif. Est-ce qu'il se conduit conformément aux mitzvot ou pas? Un juif qui ne se conduit pas conformément aux mitzvot, ben, il bénéficie pas de cette différence-là. Au fond de lui-même, il est différent, mais lui, il se conduit d'une façon qui n'est pas juive, quoi, quelque part. Donc, il est en train d'abolir la différence. Voilà, on s'arrête là.
Par vous savez que les pratiques d'élection, j'essaie d'arriver au guet qui arrive et qui fait soigneusement la victoire. Mais lui, il n'a pas enfin cette fatigue.
Il n'a pas la patine, il a, malgré tout, il entre dans quelque chose.